Vous habitez dans un beau coin. Ouais, à chaque fois que je viens par là, je me le dis,
c'est vallonné, je trouve que c'est le côté sauvage que j'aime bien. Enfin, je voulais venir près de la nature.
Parce qu'en fait, vous, je voulais vous poser avant de commencer, vous n'êtes pas du tout originaire de la Mayenne.
Non, moi je suis née à Bayonne. Ouais.
Ouais, vous avez un petit accent d'ailleurs, ça se demande. Et la porte. Ah oui, d'accord. Allez.
C'est parti.
Va faire ta balade, le chat.
L'émission. Et si on prenait le temps? Le temps d'une rencontre, d'un portrait sans l'image mais avec le son. Le temps aujourd'hui de suivre le fil d'une conversation avec une artiste plasticienne qui, telle une couturière ou une chirurgienne, tisse, à partir de ses émotions, des œuvres ou plutôt des ouvrages où s'entrelacent de multiples techniques. Dessins, papier découpé, gravures, coutures, broderies, tricot ou céramique. D'une grande finesse, son travail, protéiforme et prolifique, brouille tout repère spatio-temporel. Privilégie l'intelligence de la main à celle artificielle du numérique, mêlant à une indéniable et patiente maîtrise technique la profondeur et la spontanéité des dessins d'enfants ou de l'art brut. Notre invitée a le prénom d'une fée. Cela tombe bien. Poétique, les livres d'artistes ou les dessins composites de Viviane Michel sont comme des fables intérieures, racontant des histoires chargées de mystères et de symboles. Maison refuge, louve protectrice, fougères millénaires et autres rossignols amoureux qui peuplent les contes et les légendes dont elle aime s'inspirer. Comme ces contes à Margot, collectés en Mayenne et aujourd'hui rassemblés par Pierre Guichenet, dans un livre et une exposition dont elle signe les vibrantes images. Bonjour, Viviane, ça va?
Merci, je suis touchée par ce que vous avez dit, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écrire ça si justement.
Tant mieux si ça vit juste. Alors, je viens de parler des contes à Margot que vous venez d'illustrer. Ces histoires, ces contes anciens, ils sont pleins de fées, de saints, de phénomènes un peu surnaturels. En tout cas, qui défie le bon sens rationnel. Est-ce que vous, Viviane, vous croyez aux fées?
Bien sûr. Je crois aux fées, je crois à une part invisible très importante qui cohabite avec tout ce qu'on peut voir.
Des choses qui échappent à la science, qui échappent à l'entendement, mais que finalement...
Oui, voilà, c'est ça.
Les animaux, par exemple, perçoivent.
Que les animaux perçoivent, que certaines personnes aussi perçoivent. Il y a beaucoup de gens qui communiquent avec l'invisible à leur manière. Même en fait, le fait de cultiver un jardin, de faire attention aux saisons, aux plantes qui cohabitent les unes avec les autres, les influences qu'elles peuvent avoir l'une sur l'autre de façon invisible, sans se toucher.
Des fées, justement, on pourrait peut-être en trouver près de chez vous, parce que vous habitez en pleine campagne, tout près de Baie, un petit village de 1600 habitants à quelques dizaines de kilomètres, justement, de Sainte-Suzanne, de Sauge, où prennent leur source les contes à Margot, dont je viens de parler.
Ouais.
Et voilà, on est dans un environnement très... on est à la campagne, quoi. Et vous avez besoin d'être ici, loin du bitume, loin du béton, pour près du vivant. Pour travailler, pour vivre, c'était un besoin que vous avez ressenti.
Oui, voilà, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais ce besoin, en fait, que la nature, elle occupe une plus grande place que la ville, que le reste. Il y a plus d'animaux et de végétaux autour de ma maison, en fait, quand je regarde par la fenêtre. Et j'avais besoin, en fait, de ça, d'avoir une plus petite place, que l'humain ait une plus petite place et que le silence ait une grande place pour pouvoir me laisser porter par l'imaginaire et prendre le temps de ralentir aussi le rythme. C'est vrai qu'on était toujours pris par l'urgence, faire des choses rapidement.
La ville qui veut ça.
C'est la ville qui veut ça, la ville d'où je viens. Et justement, au début, quand je venais en Mayenne et que je rencontrais des Mayennais, je sentais qu'ils avaient un rythme plus lent. Et je me demandais si moi aussi j'allais avoir ce rythme-là à force de vivre ici. Et oui, en effet, j'ai le rythme qui a ralenti.
Et les plantes, les animaux, c'est aussi une matière première de vos œuvres. Vous allez puiser aussi dans votre environnement finalement pour...
Alors ce sont des matières qui m'inspirent. Est-ce que je mets la laine, donc c'est vrai que là je prends une partie...
Il y a une série avec des fougères aussi.
Avec des fougères, oui, des empreintes de fougères, ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, oui je ne tisse pas les végétaux comme certains artistes le font, mais en effet, elles laissent des empreintes, on va dire. Elles m'aident à créer. Mmh. C'est une co-création, en fait. Je considère ça comme une co-création entre les plantes et moi.
Alors là, on est... au premier étage de votre maison-atelier, comme vous m'avez présenté ça, dans une pièce où vous travaillez, on va dire que c'est votre atelier.
C'est mon atelier, ouais. Oui.
Et alors, par la fenêtre, on voit le ciel nuageux de la Mayenne.
Quelques oiseaux. Une toute petite fenêtre.
Voilà, une petite fenêtre, mais quand même qui donne sur un beau ciel.
Ouais.
Et puis, autour de nous, il y a plein de choses, des outils de travail. Là, je crois reconnaître une presse pour faire des estampes, pour faire des gravures.
Oui, voilà, c'est ça. Une que j'ai depuis à peu près un an. Ça faisait un moment que j'en rêvais et j'ai eu l'occasion, j'ai une amie en fait qui m'a aidée à m'acheter cette presse. Donc je suis très contente. Et après, j'ai pris des cours de gravure. Je n'avais jamais fait. J'utilisais en fait la presse au début pour faire des empreintes de végétaux ou de textiles. Donc des matrices tissées ou brodées, et maintenant je travaille des plaques de cuivre.
Ok. Alors nous, on est attablé à deux grandes tables, deux grands bureaux sur lesquels il y a plein de choses. Je repère une boîte à couture notamment,
ouais,
avec plein d'aiguilles, des bobines de fil, parce que c'est vrai que vous êtes, je le disais en intro, vous êtes une couturière.
Bon, je
le
sais
fil,
pas.
Le tissage,
oui,
il est là.
Ouais. 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 Je couds, je tricote, je brode sans jamais avoir appris. Hein. Je n'ai pas de prétention de connaître les points de couture ou de broderie, mais je m'applique à essayer de bien faire. Je brouille un peu les pistes, comme vous avez dit dans l'introduction. On dirait que je maîtrise, mais je ne maîtrise pas.
Oh, c'est peut-être un peu de modestie, là, non ?
Je ne sais pas.
Et puis, il y a cette boîte. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?
Cette boîte, je pense que c'est une boîte que j'ai dû chiner.
Il y a plein de choses. Hein. Si on passe le temps à ouvrir toutes les boîtes qu'il y a ici, je pense qu'on...
Ça, c'est mes outils de dessin, en fait.
On peut faire l'émission entière.
Et tous mes stylos, mes crayons, ça c'est avec lesquels... Okay. C'est avec quoi je dessine, pardon.
Est-ce qu'on peut présenter un peu ces
alors,
outils ? On
ne
parle pas souvent des outils des artistes, mais c'est quand même...
C'est vos compagnons tous les jours. C'est mes premiers outils, en plus. C'est ça avec quoi je commence toujours
une œuvre. C'est le point de départ, là, quoi.
Les crayons à papier, en fait, de différentes épaisseurs. Et des feutres fins noirs, le plus fin possible.
Il y a toute une série, là, donc j'imagine qu'il y a plusieurs
parce
épaisseurs,
c'est ça ? Parce qu'il y a pas tant de plusieurs épaisseurs, mais il y en a des plus ou moins vieux. Et en fait, c'est important, parce que quand il commence à s'user, le trait change.
Ah ouais.
Et donc ça donne aussi un aspect ancien, un aspect
vieux. Donc là, je prends un vieux, là, je prends un jeune.
Ça, pour nuancer les gris, c'est exactement ça, c'est important.
Ouais. Il y a aussi des pinceaux quand même, des peignées.
Oui, alors ça a été mon premier moyen d'expression, que j'avais laissé après un peu de côté pour faire que du dessin, on va dire, et de la couture sur papier. Et là, ça fait, je dirais que ça fait un an ou deux, que je recommence à mettre de la peinture dans mon travail. Et bizarrement, c'est après avoir fait une formation en tissage que je me mets à faire de la peinture.
Il y a plein d'œuvres aussi autour de nous, hein, au mur, plein de choses. C'est un atelier on n'est pas dans le vide de certains ateliers d'artistes qui ont besoin comme ça d'une abstraction pour créer. Là, au contraire, on sent que vous avez eu besoin de vous entourer de choses qui vous inspirent, qui vous plaisent, qui vous...
C'est en fait un prolongement de mes œuvres, je dirais, parce que il y a des plantes séchées, il y a des feuilles qui m'ont servi à faire des empreintes, il y a des objets après que j'ai créés aussi et qui font partie de mon histoire et qui sont pas à vendre. Il y a aussi des œuvres d'autres artistes. Il y a des objets que j'ai chinés. J'ai l'impression d'être dans mon histoire, c'est le prolongement des histoires de mes livres, et je me sens bien comme ça.
Ben voilà, nous aussi on se sent bien, on est confortablement installés. Parez Viviane pour un voyage dans les plis et les replis de vos œuvres, pleines de secrets et de promesses. Transistor l'émission, c'est parti. A little dust, a little part of me has died. Angel buried to the sky. A little dust, a little part of me has died. Couldn't help it how I tried. I yelled before, yelling again. I yell it now, remember them. I yell before, yell it again. I yell it now, remember them. A little light, some little part of me alive. Angel, hold it to the fire. Remember Me par Pierce Faccini, un musicien également peintre d'ailleurs, qui vit lui aussi en pleine campagne, non pas en Mayenne mais dans les Cévennes, pas si loin finalement de Toulouse et du Pays Basque où vous avez grandi, Viviane. Est-ce que vous viviez à la campagne aussi, enfant, dans ce Pays Basque?
Je vivais à Anglette, dans un appartement. Au quatrième étage.
Ah oui, effectivement, on est loin de...
dans une résidence.
On est loin de la campagne mayonnaise.
Ah oui, on en est loin. Mais après, j'allais aussi me balader dans le Pays Basque. Hein. Comme on dit, le Pays Basque profond, dans la nature, dans les forêts, au bord des rivières. Mais j'ai grandi, oui, en ville. Mmh. Ville, près de la plage. Ça a quand même occupé beaucoup d'espace, là, l'océan, en fait. Dans ma vie, dans ma création, c'était des moments joyeux, l'été, en famille. Voilà, des moments auxquels je me raccroche aussi, en fait.
Est-ce que déjà le dessin, enfant, alors c'est vrai que les enfants dessinent naturellement,
oui.
Les jeunes enfants dessinent,
ouais.
Mais à partir d'un certain âge, souvent, 7, 8 ans, un peu plus, on arrête de dessiner. Est-ce que vous étiez un enfant qui dessinait et qui a continué à dessiner là où les autres ont arrêté de dessiner?
Ben oui, j'ai continué parce que en fait c'était la seule chose que je savais bien faire. Et je voyais bien que mes parents étaient contents. En plus, c'est vrai que quand on est enfant, on aime bien montrer aux parents notre dessin. Et on est content qu'ils nous disent que c'est bien. Ouais, c'est une façon de leur faire plaisir aussi.
C'est parfois aussi une façon de se valoriser auprès des autres.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Là, c'était
vraiment... Mais la personne qui dessine bien.
C'est ça. C'est dans la famille. Ça, je savais bien faire. Donc, c'est vrai que dans ma scolarité, je n'ai pas été très douée. Et je n'ai pas montré beaucoup d'investissement dans les apprentissages à côté du dessin. Donc, ils étaient bien contents qu'au moins ça me plaise. Oui,
ouais.
Oui, c'est aussi pour ça qu'ils m'ont laissé aller aux Beaux-Arts. Hein, putain,
ouais.
Parce que ce n'était pas leur culture.
Ouais. Est-ce que justement, très tôt, ça a été évident pour vous que ça serait votre voie?
Ah oui,
moi, quand je serais grande, je serais dessinatrice.
Ah oui, oui. Puis je voulais faire des livres.
Ah oui.
Parce que déjà, je faisais des livres pour mes poupées. Hein. Tout bêtement, mon père était chauffeur de bus et il ramenait les souches des tickets. Et avec les souches des tickets, je faisais plein de petits livres pour mes poupées.
C'était des reliures toutes faites.
Et moi, je remplissais les pages. J'aimais beaucoup à la bibliothèque. Puis je redessinais beaucoup aussi des images de livres. Je pense au livre Martine aussi, qui les dessins m'ont fasciné. Donc je m'appliquais à les refaire.
C'est marrant, c'est pas une influence qu'on perçoit beaucoup aujourd'hui.
Non, mais après, c'est vrai maintenant...
Justement, est-ce qu'il y a des artistes déjà, je sais pas, enfants, ados, qui ont été des artistes marquants, des univers graphiques, ou alors pas forcément que graphiques, littéraires aussi, qui vous ont nourri, qui ont été des inspirations
enfant, bon, quand j'étais enfant, on va dire, ça c'était plutôt...
À part Martine.
Ouais, des dessins animés, mangas.
Ah oui, les mangas.
Bah oui, j'aimais bien ça.
Un truc qui passait à la télé, quoi.
Oui, voilà. Bah, après,
Dragon Ball.
Ce genre de choses. Moi, on restait quand même beaucoup à la maison. On était avec mes deux sœurs. Et c'est vrai qu'on s'occupait comme ça. Nos parents, ils nous laissaient faire un peu comme ce qu'on voulait à la maison. Donc, on était beaucoup dans le jeu, en fait. Et des jeux qui paraissent maintenant des jeux dépassés ou qui sembleraient ne pas bien construire la femme. Enfin bon, j'ai lu Martine et ça n'empêche que je suis indépendante et je me sens un peu libre quand même.
On peut se sortir de Martine.
Oui, ou de Barbie aussi.
Oui, hein, voilà, c'est ça, la poupée. Mais,
en fait, moi, c'était ma génération, donc c'est avec ça que je jouais. Et c'est ce qui m'a permis de développer ma création, hein, aussi de faire des habits, des costumes, mes poupées, tricoter avec ma mère.
Est-ce que quand on est artiste, on joue finalement?
Je crois. On se raconte des histoires, en tout cas, ça c'est sûr.
Souvent, c'est un ça. Enfant qui joue se raconte des histoires.
Oui. Donc c'est lié au jeu. Alors oui, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est raconter des histoires, créer un monde imaginaire. Ça quand on joue. Donc je joue alors. Je joue beaucoup.
Le jeu peut être sérieux. En tout cas, voilà, il y a cette idée très vite chez vous que ça serait votre voie.
Oui, je voulais faire du dessin, je voulais être dessinatrice.
Et les Beaux-Arts, ça s'est imposé du coup?
Ça s'est imposé. C'est vrai qu'à cette époque-là, je parle un peu comme une vieille. vrai qu'il n'y avait pas, énormément de choix d'école d'art en fait.
Hein. Ouais. Parce que quand vous dites cette époque-là, là, on est dans les années 90, au milieu des années 90, vous êtes rentré à l'école des Beaux-Arts de Toulouse en 1996.
C'est ça.
Et effectivement, c'était une voie, une des seules voies possibles.
Il y avait les Beaux-Arts, sinon il y avait des écoles privées, mais
C'était cher.
Et puis la fac, il fallait avoir le bac, et moi, je n'avais pas mon bac. J'avais fait un concours.
Ah oui, on pouvait rentrer aux Beaux-Arts sans le bac.
C'est ça, voilà. Donc j'ai appris beaucoup, j'ai complètement déconstruit ma façon de créer, en fait, en étant aux Beaux-Arts, ce qui était très déstabilisant.
Est-ce que vous aviez déjà une pratique et déjà, on va dire, un travail d'artiste avant de rentrer au Beaux-Arts?
De dessin, beaucoup, oui. J'aimais beaucoup dessiner des portraits, des personnages. Pas beaucoup de paysages, en fait, hein, bizarrement. C'était vraiment des personnages que je faisais. Et donc, je pensais que j'allais apprendre à mieux dessiner, mais ils ne m'ont pas appris que ça.
Qu'est-ce qu'on apprend aux Beaux-Arts?
Avoir une démarche artistique.
C'était pas tant des savoir-faire techniques que trouver son identité, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. On avait des cours de modèles vivants, quand même, donc des cours de dessin. Mais après, voilà, il fallait créer une démarche artistique, réfléchir sur un thème, justement développer une histoire, essayer, se tromper, ne surtout pas aller vers ce qu'on savait faire, ce qu'on maîtrisait. Donc moi, c'était le dessin. Et même si ça déstabilise, ça fait avancer. C'est vrai qu'en fait, je crois que j'ai gardé cet apprentissage. Je continue toujours à apprendre des techniques, à essayer d'autres choses, à impliquer multiples techniques. Mais quand j'étais aux Beaux-Arts, je ne réalisais pas à quel point j'apprenais. En fait, c'est vrai que j'étais un peu en rébellion contre ce qu'on m'apprenait. Je ne comprenais pas bien, en fait. Il m'a fallu sortir des Beaux-Arts pour me dire « Ah oui, mais en fait, j'ai appris plein de choses, c'était super, c'est vraiment
avec
une chance. »
Ouais.
Oui, quand on est dedans, quand on est toujours, en fait, on perd l'équilibre tout le temps, en fait. C'est ça, il nous pousse toujours pour qu'on tombe, même si on arrive à un moment donné à stabiliser sur une technique, hop, il nous pousse, on ne va pas rester là.
Ouais, ce qui n'est pas simple, parce qu'effectivement, on aspire à maîtriser les choses.
Oui, on veut bien faire, on veut s'appliquer et puis surtout on croit qu'on a trouvé à un moment donné son identité et puis voilà, ça y est, c'est bon, je vais faire comme ça. Mais non, en fait.
Ouais. Mais justement, c'est ça qu'on apprend aux Beaux-Arts et qu'on continue d'apprendre aussi sans doute après. Qu'est-ce qu'on a à dire, nous, de particulier en tant qu'artiste? Qu'est-ce qu'on a à dire de singulier que les autres ne disent pas? Ça a été un long chemin pour vous, ça, c'est quelque chose qui est arrivé au fil des Beaux-Arts, justement, ou c'est quelque chose qui est arrivé?
Ça est arrivé après. Ouais. En fait, aux Beaux-Arts, oui, donc on apprend plein de techniques différentes, à donner du sens aux images qu'on produit, que ça a un impact sur les autres. On apprend l'ouverture d'esprit, plein de formes d'expression artistique. Mais c'est après, avec l'expérience de la vie... et ce qu'on vit, en fait, qu'on a envie de trouver une identité. Mmh. On se cherche, mais je ne suis pas sûre d'avoir encore trouvé la mienne. I love you like the roots in the sand. Loves his plan. I love you like death loves a man, and I love you like a gun in my hand. I go bang, 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 bang. I'm back, back again. Chisel and stone. I love you like needle and bone. I love you like a god loves his son. And I love you like my hand on a gun. I go bang, 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 I'm back, back again.
Azaf Avidan, Bang Bang, un choix musical comme tous ceux qui ponctueront cette émission que nous devons à notre invitée, Viviane Michel, avec qui nous continuons de retracer le parcours. On parlait de votre sortie aux Beaux-Arts, de la manière dont on se construit une identité artistique, ce qui est difficile aussi quand on sort d'une école et quand on veut devenir artiste, c'est aussi creuser son trou, faire son trou avec ses petites mains, parce qu'on est livré à soi-même, on est tout seul, en fait, on n'est pas épaulé, on est tout seul, et il faut créer son réseau, créer des contacts, trouver des endroits où exposer, trouver des endroits qui vont nous aider, qui vont nous représenter. Tout ça, c'est un long chemin aussi, qui est souvent ardu. Il y a beaucoup d'appelés, il n'y a pas tant que ça d'élus. Le travail, notamment le travail de plasticien, c'est quand même souvent des chemins assez complexes. Vous, aujourd'hui, vous êtes représenté par plusieurs galeries. Il y a 4 galeries, je crois, qui présentent votre travail. Vous êtes présente dans des fonds d'institutions, oui, notamment pas mal de bibliothèques, parce ouais, que c'est vrai que votre travail aussi touche beaucoup aux livres. En tout cas, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais en tout cas, voilà, il y a une partie du chemin qui a été fait.
Oui, je chemine. Je pense que là, ça commence à être un peu plus facile, dans le sens où on me propose des choses sans que j'ai besoin de toujours démarcher, même si je continue à le faire.
Ouais, c'est ça, il y a des propositions d'expo qui arrivent, il y a des choses qui tombent du ciel, entre guillemets.
C'est ça qui est confortable en ce moment, ouais. Et c'est assez récent quand même. Du moins qu'on me propose des choses qui sont vraiment en lien avec ma création, où il y a vraiment un fond et du sens dans ces projets, quoi.
En 2015, il y a eu un switch dans votre parcours. Qui fait que vous avez changé de pratique.
C'est ça.
Et, oui, et qui vous amène au travail qu'on connaît aujourd'hui, qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Est-ce qu'on peut en parler? Comment ça s'est passé? Et puis comment ça vous a amené aussi finalement ici, en Mayenne? Est-ce qu'il y a un lien, sans doute?
Ah oui, il y a un lien, oui. Ouais. Bon, moi je vais faire ça assez rapidement, mais j'ai eu un petit accident de parcours, accident de vie en fait, pas un accident ni de voiture, mais quelque chose qui nous arrive comme ça, poum, sur le dos, c'est le cas de le dire, parce que c'était vraiment sur mon dos, donc un problème de santé qui m'a paralysée, qui a nécessité de la neurochirurgie, et j'ai beaucoup beaucoup de chance, je remarche et j'ai une vie normale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la personne qui m'a opérée, c'était une jeune femme qui s'appelait Docteur De Rose. Magnifique en plus, jolie petite femme avec un super nom, une fée. Voilà, bon, pour moi, c'était une fée.
Et on parlait des fées, bah, justement.
Je pense que je me suis sentie vraiment entre de bonnes mains. Et elle a fait un travail pour moi, elle m'a expliqué qu'elle m'avait opérée avec une loupe. Enfin, ils étaient deux. Elle m'a expliqué tout ce qu'ils ont fait. Et je me suis dit que c'était vraiment de la haute couture, vraiment du corps, merveilleux. J'ai trouvé ça super ce qu'on pouvait faire, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à coudre mon papier en fait. Ça a commencé avec les fougères, qui représentaient une partie de mon corps en fait,
une colonne vertébrale,
c'est ça exactement. Et je faisais pareil, je m'étais acheté une lampe loupe que je mettais au-dessus de mes ouvrages, et puis je faisais comme elle pouvait faire.
Vous pouvez redessiner des détails très 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 fins, quoi.
Ouais,
ce qui est une marque forte de votre travail.
Ouais. Oui, des choses toutes petites, parce que c'est vrai que c'était aussi elle ce qu'elle avait fait. Bon, c'était au début en hommage. J'avais fait toute une série en pensant à cette jeune femme. Et puis la couture est restée. Je me suis appliquée un peu plus à faire des choses plus précises. Et le fil est toujours présent dans mon travail aujourd'hui. Bon, en effet, c'est vrai que ce genre d'épreuve, ça change la façon de voir, la façon de vivre. Donc j'ai ralenti beaucoup le rythme. Maintenant, je prends le temps. Et souvent, on me demande, oh là là, mais c'est du temps ce que vous faites. C'est du temps, mais que je ne vois pas, en fait. Donc c'est plutôt de la passion.
Passion, patience.
Ça va avec.
Patience tout à l'heure. C'est presque les mêmes mots.
Ouais, en fait,
quand vous êtes absorbé dans ce travail-là, en fait, le temps s'arrête, quoi.
Le temps s'arrête. Non, s'arrête pas. Je ne sais pas comment on veut répondre à cette question. Je n'ai pas l'impression que le temps s'arrête.
En effet,
je suis dans ma bulle.
Ouais, c'est ça.
Et je ne regarde pas l'heure qu'il est. Je suis à ce que je fais et concentrée sur mon ouvrage.
On parlait du rythme. Vous disiez que justement en Mayenne, vous aviez trouvé. Vous venez en Mayenne par hasard au départ pour faire un stage.
Oui, une formation autour de tissage.
Des métiers à tisser.
Oui.
Et vous disiez que vous trouviez que le rythme des gens était différent.
Oui.
Et finalement, vous vous êtes installé ici aujourd'hui. Alors, c'est pas parce qu'il y a une lenteur ici ou quoi, mais enfin, en tout cas, c'est un environnement qui vous convient là.
Ah bah oui, ouais. Oui, voilà, ouais. C'est ça. C'est que moi j'avais envie d'être posée, voilà, de prendre le temps, d'être plus en harmonie et proche plus en harmonie avec l'environnement dans lequel je vivais, être plus proche de la nature. Prendre le temps d'observer, être plus dans la contemplation aussi, voilà, de la nature. Que je ne vivais pas voilà, dans mon appartement au Pays Basque. Donc, voilà, enfin, je suis venue faire cette formation parce que j'avais envie de changer d'air, de découvrir de nouvelles choses. La technique du tissage, je ne connaissais pas. Voilà, dans ma famille, il y a des couturières, des brodeuses, des tricoteuses. Donc ça, c'est quelque chose qu'on m'a transmis. Mais personne ne faisait de tissage. Moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'avais envie d'essayer. Et je ne connaissais pas du tout la Mayenne. Je n'avais même pas entendu parler de ce département.
C'est pas si étonnant. Et le hasard fait que vous venez faire ce stage. Et ouais. Du coup, vous rentrez après au Pays Basque.
Oui.
Et là, en fait, vous rencontrez quelqu'un qui est originaire de la Mayenne.
C'est ça.
Qui est votre compagnon.
La vie est étrange, en fait. C'est vrai que tout le temps que je faisais ma formation, je me disais que j'aimerais bien vivre ici. Que ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de vivre. J'ai rencontré des personnes géniales. Et je suis redescendue donc, chez moi avec cette envie de partir. Mais c'est difficile de partir tout seul comme ça. Puis j'étais encore avec mes enfants. Et donc oui, en effet, j'ai rencontré Nicolas, mon compagnon, 2-3 mois après, qui est mayennais, originaire de B. Sa famille est là, tout près.
Retour aussi. Ouais.
Et puis, ben, voilà, ça s'est fait petit à petit. On a d'abord travaillé ensemble sur des livres d'artistes.
Ouais, on va en parler. Ouais. Et ça, c'était en 2020,
2021 2019.
Ouais. C'est à ce moment-là aussi que vous allez arrêter votre pratique d'enseignante, parce que vous avez pas mal enseigné aussi en tant que prof d'art appliqué dans différents lycées. Et là, quand vous arrivez ici, en Mayenne, vous consacrez uniquement à votre travail artistique.
Ouais, c'est ça. C'est que j'ai pas eu envie de reprendre l'enseignement. Je voulais vraiment être indépendante et voilà, développer ma pratique artistique qui passe aussi par la transmission, puisque je fais des ateliers, enfin, des workshops, ouais. Toujours dans les lycées, les collèges. Enfin, j'aime bien partager la création avec les autres. Une fois, j'aime bien être toute seule dans ma bulle, mais j'aime autant voilà, sortir de mon espace et rencontrer d'autres personnes. Sur un espace de création, c'est aussi comme ça que je fais connaissance avec les personnes aussi.
Alors ici vous avez trouvé le temps, vous avez trouvé l'espace aussi justement, parce que vous me disiez quand je suis arrivé tout à l'heure, en fait j'ai enfin un atelier à moi,
oui, c'est
cet endroit où on est là. C'est la première fois que vous avez une pièce à vous pour travailler, pour créer. Et c'est là que toutes vos œuvres naissent, en fait. C'est là, on est dans le...
oui, c'est ça.
On
tout
dans
le monde
le coton.
Trouve que c'est petit, mais pour moi, c'est très grand déjà. C'est déjà beaucoup. C'est la première fois que voilà, j'ai vraiment un espace à moi où je peux créer, où je peux laisser mes affaires comme ça, sans avoir besoin de les ranger, parce que ça va devenir une table de salon à un moment donné.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment un luxe.
Ouais. Et c'est là, en fait, que vous venez tous les jours, comme quelqu'un qui viendrait au bureau. Vous venez...
Ah ben oui, vous voyez, là, c'est ma chambre de l'autre côté de cette porte.
Hop. Donc, à 9h, vous êtes là.
Oui, oui.
Et comment, en fait, ça naît une œuvre ? Ça, vous disiez tout à l'heure, c'est le crayon, souvent, c'est par le dessin que ça arrive.
C'est par le dessin, ouais. Oui, c'est par le dessin, toujours. Ouais. Et puis, parfois, par des mots. Hein. Ce livre-là que je suis en train de faire.
Ouais, ben, on peut en parler. Je vais aller le chercher.
C'est j'ai commencé par le texte. Voilà, j'avais envie. Des fois, j'écris aussi un petit peu.
Je le décris. C'est une boîte. C'est une boîte verte en tissu. C'est écrit mousse ravissante dessus.
Oui. C'est le titre.
Et c'est une boîte qui fait, je sais pas, 15 cm par 15 cm, qui est carré, et qu'on a envie d'ouvrir, que je vous laisse ouvrir.
Alors, juste pour le titre, Mousse ravissante, j'ai une amie, donc mon amie Isabelle Rousselot, qui m'écrit des poèmes, qui m'a offert ce livre que vous avez à côté, Chose qui rend heureux. Et en fait, c'est toute une liste des poèmes, mais listés, des choses qui rendent heureux. Donc, moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui me rend heureux ? C'est regarder la mousse sur les troncs d'arbres ou sur les rochers. Donc en fait, la mousse, je la tricote ici, je tricote du fil.
Ah ouais, c'est de la... D'accord.
C'est du fil tricoté qui, pour moi, représente la mousse.
Ouais.
Alors, à l'intérieur, il y a
là, c'est une sorte de résille verte.
Oh oui, c'est où une copine m'avait dit une fois que ça, c'est comme une dentelle brouillonne.
Ouais.
J'aimais bien ça. Et ensuite, il y a tout un travail. Il y a un petit Leporello avec
là,
le texte.
En fait, vous êtes en train de déplier un livre artisanal que vous avez fabriqué, ce qu'on appelle un Leporello, effectivement, qui est une sorte d'accordéon, finalement.
Voilà, c'est un livre
accordéon. Très beau papier, un papier, je pense... d'artiste quoi.
Alors, c'est du Condor Verger précisément.
Si voilà, vous voulez son nom. Les mots, donnons les précisions. Du Condor Verger, quoi, donc
300,
un très beau papier
300
avec
grammes.
Une belle trame.
Ouais, oui, voilà. C'est vrai qu'il est beau. J'ai eu de la chance de le récupérer aussi.
Et donc voilà, il y a tout un travail avec de l'aquarelle, c'est ça.
Alors, c'est de la peinture à l'huile,
peinture
mais
à
qui
l'huile,
se dit,
délié,
qui se dilue avec de l'eau. Donc j'ai travaillé en tache, en fait. J'aime bien travailler la tache. Enfin, la couleur, elle vient dans mon travail de façon abstraite.
Finalement,
c'est un lien que j'ai gardé avec ma période
d'avant,
abstraite, dont on ne parlera pas. Donc, il y a ce dépliant avec mon texte.
Attends, parce que tout n'est pas dit, là.
Non.
Il y a aussi des mots, quand même.
Ben oui, je m'essaye un petit peu à l'écriture.
C'est très souvent dans votre pratique artistique que les mots rencontrent le graphisme.
Ben, en fait, voilà.
Est-ce qu'on peut les lire?
Si vous voulez.
Délicate accrochée au bois silencieuse, assise sur les branches résistantes, alliée à mes aînés. Gracieuse famille, tapisse mes racines. Ça, c'est des mots de vous.
Oui.
Parce que parfois aussi, c'est des choses que vous découpez dans les livres, des poèmes.
Voilà.
Mais là, en tout cas, c'est votre main.
Alors, j'ai cherché des mots aussi dans les livres. Parce que parfois le vocabulaire me manque, en fait. C'est ce que je veux raconter. Donc là, je voulais raconter, en fait, je voulais faire un parallèle entre les mousses sur les arbres et puis les napperons, les crochets que les femmes font et les arbres, comme si c'était les arbres généalogiques. En fait, je fais un parallèle entre les femmes qui tricotent, qui font des ouvrages, en fait, et les mousses qui sont sur les arbres des forêts, qui sont des arbres familiaux. Et là, il y a une autre petite boîte. Dans cette boîte.
C'est pas fini. En fait, il y a
c'est une petite installation, en fait.
Dans ces livres d'artistes, il y a vraiment le plaisir de la. Comme du cadeau qu'on développe. Hein,
oui,
de
c'est
la
ça.
Surprise qu'on va avoir en ouvrant.
On manipule.
C'est ça. On est actif en tant que.
C'est ça que j'aime bien dans le livre d'artiste, en fait. C'est de pouvoir manipuler, découvrir au fur et à mesure.
Waouh!
Donc,
ah
ça,
ouais.
C'est une empreinte d'un napperon. En fait, voilà, je vais pas avoir place de tout
là,
le déplier.
Ça devient une œuvre en 3D. Le papier se déplie.
Donc, d'un
forme
côté,
de sculpture.
C'est l'empreinte d'un napperon. On me donne beaucoup de napperons. J'ai de la chance. Depuis que les gens savent que je fais des empreintes de napperons, ils sont généreux avec moi.
Elle se déplie. Effectivement, on reconnaît. Effectivement, l'empreinte d'un napperon.
Que j'ai rebrodé, vous voyez, j'ai fait des petits trous après aussi avec le scalpel. J'ouvre la matière et de l'autre côté, c'est de la peinture. Et puis j'ai écrit tous les prénoms des femmes de mon arbre généalogique.
Ok.
Voilà.
Y a aussi quelque chose de très intime là-dedans.
Toujours.
Ouais.
Toujours, mais en même temps, c'est... Ça permet aussi... je sais que les personnes me disent qu'elles s'approprient facilement mon travail.
Ça
parle des femmes, de lignées, de brodeuses, de tricoteuses. Dans toutes les familles, on a des ancêtres qui faisaient ce type d'ouvrage. Voilà, donc c'est un petit peu... C'est mon histoire personnelle, donc avec les prénoms de mes ancêtres,
mais ça pourrait être une autre famille.
Ça pourrait être exactement une autre famille.
En tout cas, comme je le disais, il y a dans les livres d'artistes, dans ces livres-là, il y a le plaisir de développer. Et c'est vrai, quand le livre est fermé, il renferme un secret, quoi, quelque chose d'intime, de caché, qu'on va avoir le plaisir d'ouvrir, de développer, de découvrir et de parcourir. On a l'impression d'accéder à quelque chose comme ça d'intime.
Ben oui, on entre dans l'œuvre, je trouve. Parce que finalement, les œuvres que vous voyez là sur le mur, on peut les apprécier par rapport à ce qu'elles proposent comme image. Voilà, il n'y a rien d'autre de plus à découvrir. Sauf si on s'approche, on va peut-être voir des détails. Mais là, voilà, on rentre dans l'œuvre, il y a de la manipulation, comme je le disais. Et puis, il y a plusieurs façons de lire aussi.
Les oiseaux voulant être secs prouvèrent l'idée qui sauvera le monde. Un univers sans prise de bec, une course à la chute où nul ne tombe. Elle voulait visiter Spark, pas les noyer dans ses larmes. Avec sa clique d'animaux après le lessivage, concentrer le groupe réfléchit près du rivage. Pendant que les derniers pas tochaient, les premiers se demandaient comment partager. Avec un dessin et quelques plumes, le bonheur s'écrit au son d'une flûte. Raka est géant, plus salé qu'un ver d'océan. Les temps sont froids, santé n'est pas à jouer. Ils risquent tout, une gorge rouée. Tous en rond cherchent comment sécher. Une blonde se demande quand cela va cesser. La souris veut lire un conte desséchant, d'un ennui qui peut laisser désenchanter. La solution se fait tardive, encore mouillée, certains veulent partir. Le dodo offrit sa plus belle idée, et la course au caucus fut validée. Une compétition sans déconvenue, une course où on s'arrête dès qu'on l'a voulu. Sécher quand la magie opéra, une épreuve que nul n'a perdue. Parce qu'une vraie victoire n'a pas de prix, bientôt la course au caucus à la loterie.
Le trompettiste Ibrahim Malouf et le rappeur Oxmo Puccino sur l'album Au Pays d'Alice, inspiré du conte de Lewis Carroll. Viviane, nombre de vos œuvres font référence directement ou indirectement au conte, au merveilleux, à l'étrange même, au rêve aussi. Et dans ces figures qui vont peupler vos œuvres, il y a cette figure qui revient souvent, c'est celle de la louve, pas du loup. De la louve. J'ai l'impression hein, que c'est
oui,
important.
Oui, c'est important.
De maître
c'est...
féminin.
c'est une louve, en fait. C'est, ouais. C'est une maman.
C'est ça.
Qui est arrivée, en fait, dans mon travail depuis que je suis arrivée en Mayenne. Probablement
d'accord.
Parce que j'ai laissé mes enfants au Pays Basque.
Ouais.
Et maintenant, bon, ils sont grands. Moi, ma fille aînée est adulte et mon fils a 17 ans bientôt. Donc c'est vrai que il y a eu aussi je suis partie loin et je me suis questionnée en fait sur mon rôle de mère, sur quelle mère je suis en train de devenir, quelle mère j'étais. Et en fait j'aime bien faire des parallèles avec les animaux ou des éléments de la nature, même que je vais chercher des symboles. Enfin je lis beaucoup de livres sur les symboles. Je vais même voir des cartes. Oracle ou de tarot pour savoir ce que ça peut dire. J'adore les images qui racontent plein d'histoires.
Ouais. Donc, qui sont pleines de sens.
C'est ça, ouais. J'aime bien. Ouais. Même les fleurs, en fait. Hein, je vais chercher signification. Puis après, bon, on peut aller très loin dans ce genre de recherche, hein, parce que d'un pays à l'autre, c'est pas la même chose.
Ouais.
Donc la louve, voilà, c'est les mamans. C'est pas que moi, hein, c'est un peu toutes les mamans. C'est une mère protectrice. Qui peut parfois être peut-être étouffante. Donc je l'ai vécu aussi avec ma mère. Hein, donc je pense aussi à ma mère, à ce qu'elle a vécu. Enfin, il y a comme ça les histoires qui se poursuivent de génération en génération.
On peut parler de cette œuvre qu'on a en face de nous.
Oui. Ça illustre bien ce que je dis.
Voilà, c'est pour ça. Là, en fait, on est sur quel type de technique, en fait,
C'est que du dessin avec les outils que je vous montrais au début, là, avec les crayons et le feutre fin.
C'est d'une très très grande précision.
Ouais.
Un niveau de détail très très poussé. Ça représente une louve, en fait, justement. Une silhouette de louve.
Silhouette de louve avec une forêt.
Sur un fond blanc et à l'intérieur en fait, de son corps, en fait, effectivement, c'est une forêt.
Deux enfants.
C'est une louve monde un peu.
C'est ça. Oui, c'est
une forêt dans laquelle il y a deux enfants qui jouent, un garçon et une fille.
Ils sont dans un halo de lumière. Donc ils sont paisibles là, les enfants. C'est mes enfants, ma fille aînée, mon fils, hein, clairement.
Disons-le.
Là vraiment, ça parle de mon histoire. Et la louve, elle est juste en silhouette. Donc en fait, c'est des enfants qui jouent dans la forêt et qui sont pas du tout inquiets de cette forêt qui paraît peut-être un peu sombre et touffue autour. Ils sont, ils sont sous la protection de la louve.
Il n'y a aucune inquiétude.
Non.
D'ailleurs, dans votre travail, même si on disait tout à l'heure qu'il y avait une forme d'étrangeté parfois, de lien au merveilleux, à ce qui ne serait pas rationnel, en même temps, c'est jamais... rarement, je trouve, inquiétant. Y a plutôt quelque chose d'assez, plutôt chaleureux et doux.
Oui, doux, hein, c'est ce qu'on me dit souvent, que c'est doux. Tant mieux, parce que c'est ce que j'aime bien montrer.
Alors, le loup, pour le coup, c'est pas un symbole. Il est là dans toutes les histoires pour enfants. C'est le personnage qu'on retrouve dans toute la littérature jeunesse comme plutôt un épouvantail, quelque chose qui fait peur. Mm-hmm. Pourquoi on a peur du loup, comme ça, à votre avis? Et pourquoi c'est quelque chose qui revient souvent, quand même, malgré tout, dans
les contes, pourquoi on a peur du loup?
Pourquoi ce loup, vous en faites une figure protectrice, mais finalement...
La louve, en fait, moi, on parle des loups dans les histoires, on ne parle pas des louves.
C'est ça.
Les loups font peut-être peur, mais pas les louves. Non, après, je ne sais pas pourquoi il y a cette image. Enfin, maintenant, il y a quand même beaucoup de contes qui proposent des histoires avec des loups sympathiques avec qui on peut avoir des relations amicales. Mais bon, elle est quand même un petit peu inquiétante pour les enfants. Je me rends compte de ce tableau-là, si je peux me permettre des anecdotes. C'est en exposant dans des collèges ou en montrant ça aux enfants, et ils me demandaient si la louve, elle avait mangé les enfants. J'étais étonnée de ça. Donc, il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans cet animal. Même si là, le dessin est doux et que les enfants, ils sont bien heureux en train de jouer.
Oui, ils n'ont pas du tout l'air, effectivement, en danger. Là, le symbole de protection que dans une autre œuvre qui s'appelle Louve, que vous avez faite en 2018, là, clairement, elle incarne cette louve, la protection, ne serait-ce que par sa position.
Elle enveloppe, une maison.
Comme ça, courbée.
Abri, mais alors, il y a deux silhouettes de petits louveteaux ici. Ah. Peut-être que vous n'aviez pas vu.
Non.
Et en fait, se déroule devant la maison tout un monde merveilleux et coloré. Donc les petits louveteaux, ils ont bien envie de sortir, découvrir ce monde merveilleux, qu'ils imaginent merveilleux. Je ne sais pas s'il est vraiment merveilleux. En tout cas, ils imaginent que c'est merveilleux. Ils voudraient bien y aller. Mais il y a la louve derrière qui surveille. Mais elle est là, elle veille, mais ils y vont dans ce monde.
Alors là, on est sur une œuvre qui est très composite. Effectivement, il y a la louve qui est dessinée au crayon, en noir et blanc. Ensuite, il y a une maison, un refuge, un abri qui est cousu de fil rouge et en fait qui a une forme aussi.
Il y a des fougères aussi.
Textile, des fougères effectivement imprimées.
C'est
puis des fleurs découpées, colorées au crayon.
Au crayon de couleur,
très colorées, très vives. Et puis une sorte de clairière, de pelouse en laine.
Un tapis laineux.
Sur lequel flotte un bateau.
Ah oui. C'est l'aventure, quoi. Ils veulent partir.
Aux voiles jaunes.
Ils veulent mettre les voiles, en fait. Ouais. Et c'est aussi peut-être la présence de la mer, toujours, dans mon histoire. Ouais. Donc, il y a souvent des petits bateaux qui se promènent là où il ne faudrait pas qu'ils soient. Mais on en voit un là-haut aussi.
Oui, c'est vrai.
Pour moi, c'est le symbole d'aventure, en fait.
Et là, cette œuvre-là, elle symbolise bien aussi votre travail, justement, cette propension à mixer les techniques.
Oui, c'est ça. Et c'est rare que j'arrive à faire une mixité comme j'ai fait dans cette petite vitrine. Dans mes livres, je le fais. Ça me paraît facile de le faire dans le livre, en fait. C'est un objet, donc je peux avoir du tricot, de la couture, du dessin. Je trouve que tout cohabite bien, mais j'ai du mal dans les tableaux.
D'autres livres, parce que vous en avez fait énormément de livres.
Oui, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Parce que
en parcourant votre site internet, j'étais surpris du nombre de livres qui.
Oui,
qui,
c'est vrai.
Des livres d'artistes uniques.
Des pièces uniques. Et d'ailleurs, ils sont pas tous, mais j'aime beaucoup faire ça. Et quand je me mets à faire un livre, je peux passer une semaine dessus. Et puis, ça me va bien, en fait, de faire ça.
Mais il y a tout un pan de votre travail aussi qui sort justement de ce cadre-là, du livre, comme cette œuvre-là qu'on voit. Et dans lequel on quand même vous arrivez malgré tout à mixer les techniques, et on retrouve souvent quand même le tissage, hein. C'est quelque chose de, ou le fil en tout cas,
oui, le fil,
c'est
oui.
quelque chose d'assez fondateur dans votre travail. On l'expliquait tout à l'heure, c'est aussi lié à votre parcours, et aussi je le disais justement, le symbole auquel renvoie le fil, je trouve qu'il est très parlant. Le fil a un pont, une possibilité d'envol, un chemin magique où voyagent les esprits. Et le tissage, cette technique apparemment simple qui permet d'obtenir des étoffes d'une telle complexité que le tissage est devenu un symbole de mystère et de l'existence. C'est l'intersection du temps et de l'espace, l'entrelacement du monde visible et du monde invisible. Ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Le Livre des Symboles.
Que j'ai là, je crois bien que c'est celui-ci, là, vous voyez derrière.
Et en fait, ça dit plein de choses de votre travail, je
trouve. Mais en fait, ça ne m'étonne pas parce que ça m'inspire, en fait. J'ai ce Livre des Symboles. Après, je n'ai pas regardé le Livre des Symboles avant de travailler, mais je cherche et ça me rassure. Je me dis, mais oui, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça va bien, donc il faut que je continue, que je continue comme ça.
Et il y a aussi, on le voyait dans cette œuvre-là, je reviens sur cette œuvre qui s'appelle La Louve, il y a aussi cette maison, cet abri. Et ça, c'est aussi une figure forte dans votre travail.
Oui, c'est vrai. Après, c'est un sujet qui inspire quand même beaucoup d'artistes. La maison, c'est un prolongement de soi. C'est plutôt ça, pour moi, la maison. Plutôt qu'une maison, c'est un peu comme... une enveloppe, un corps, en fait, dans lequel il peut se passer plein de choses. En tout cas, ces maisons-là, elles sont assez nomades, hein. Comme je vous disais. Je manquerai pas à un territoire. C'est vrai que je vais quitter le Pays Basque pour venir en Mayenne sans état d'âme. Et j'ai vécu aussi à Toulouse. J'aime bien me déraciner et puis après m'enraciner ailleurs un moment, puis repartir. Là, je suis en Mayenne, je pense, pour un moment. Mais voilà, la maison, c'est plutôt pour moi l'enveloppe du corps des personnes, je dirais. Et pour revenir aussi au fil, à la laine, je pense que dans ma famille, je me dis que j'ai un rôle parce que je pense que ma mère ou ma grand-mère, elles ont fait des ouvrages comme ça dans le secret, pour elles-mêmes, pour la maison, pour habiller les uns les autres. Sans oser montrer leurs ouvrages au-delà de ça. Et je me dis pour moi, c'est comme si que je mettais au jour, en fait, un peu ce qu'elles m'ont transmis. Je ne sais pas si ça se dit ou si on comprend bien.
Si, c'est très clair. je vous rassure. Alors, on va faire une dernière pause musicale, car hélas, c'est bientôt la fin de notre conversation avec Célasson, This World.
You saw fear, real danger. This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. Big it up, but you don't understand. This world is not my feelings, no fading.
your fear, 'cause this world ain't simple. But I'm strong, I know how to stay out, and I'll find my way, 'cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah. Oh, whoa, whoa. So won't you just give it up, 'cause you don't understand. Make it up, but you don't understand. And it's really nice, but you don't understand. So big it out, 'cause you don't understand. Hey, 'cause you don't understand, baby. I feel it's falling down. I know I'll catch it. You crazy world, crazy world, hey.
Dernière séquence de notre rencontre avec Viviane Michel, où il faut tout de même que nous parlions de ces contes à Marco que nous évoquions en début d'émission et qui ont donné lieu à un livre illustré par vos soins, Viviane, mais aussi à une expo, un spectacle. Ces contes collectés dans la région de Sainte-Suzanne par l'écrivain et le photographe Pierre Guichenet, qu'on avait eu d'ailleurs à ce micro. Ces contes, ils parlent de magie, de fées, de pouvoir, du pouvoir des pierres, pardon, des sources. Avec tout ça, il ne pouvait que vous plaire, je pense.
Ça s'est fait, oui, naturellement.
S'est fait, justement?
Oui, bah, en fait, ouais. J'ai fait une exposition. Quand je suis arrivée en Mayenne, j'ai eu la chance rapidement de faire une exposition à la Maison Rigolote à Laval. Mm-hmm. Donc, j'avais appelé cette exposition La Forêt de la Louve. Et Valérie Gendry, donc, qui travaille à la Bibliothèque départementale, avait entendu parler de mon travail parmi les livres d'artistes, déjà, qu'elle suivait depuis quelques années. Donc, elle est venue voir l'exposition, et quand elle a vu l'exposition, elle m'a très vite proposé un projet qui était en cours de lancement, qu'il fallait qu'elle discute avec l'auteur, mais qu'elle aimerait bien des images, une expo. C'était très flou, et puis elle est revenue vers moi un peu plus tard, avec Pierre, pour me dire qu'ils avaient en projet de faire une exposition. D'abord, c'était une exposition en fait, qui devait tourner dans les bibliothèques de la Mayenne, sur les contes et les légendes du département. Les textes n'étaient pas encore écrits, mais Pierre m'avait déjà envoyé plein de ses premiers jets, tout ce qu'il avait pu récolter sur les contes. Et il m'avait invité à venir voir son spectacle, une balade contée, à Sauges. Donc, j'ai très vite compris dans quel univers il évoluait, c'est-à-dire que c'est les contes et les légendes de la Mayenne, mais il aime beaucoup faire des ponts avec les autres cultures, d'autres régions de France ou même d'autres pays. Donc,
ce que l'a fait Margot, qui est au centre de ces contes, on la retrouve au Maroc, par exemple.
Oui, voilà.
On la retrouve dans plein d'autres cultures, finalement, cette fée, par exemple.
C'est ça, et c'était une figure importante. Pour lui, en fait. D'ailleurs, ça faisait partie des premières histoires qu'il avait terminées avec Saint-Céneret. Donc, au fur et à mesure, il m'envoyait des textes. Et au début, c'est la première fois en fait que je faisais des illustrations d'après un texte. C'était pas évident, mais ils m'ont laissé, lui et Valérie,
en fait,
la possibilité d'être libre, parce que comme je doute beaucoup, si j'avais en plus des personnes qui me faisaient des commentaires, je pense que j'aurais pas pu faire le projet.
Et alors, comment vous les avez abordées, ces illustrations, au regard du texte, justement ? J'ai l'impression que vous n'avez pas voulu être dans une illustration littérale, justement, de l'action, ou dans quelque chose de très réaliste, au contraire.
Oui, c'est ce qui m'était demandé aussi par Valérie Gendry, en fait, c'était mon interlocutrice pour ce projet. Elle me disait vraiment, il ne faut pas faire de l'illustration et remettre en image ce qui est mis dans le texte. En plus, le texte n'était pas, fait vraiment au début, c'est arrivé progressivement. Et donc, je me suis permise d'aller chez une amie à moi qui est ethnobotaniste, Marie Cloto Girard, qui n'est pas si loin que ça, donc dans son jardin. J'ai fait des cueillettes, des empreintes. Puis j'ai aussi mis de ma culture personnelle. Voilà, nous aussi on a des paysages, nous aussi on a une pierre talonnée au Pays Basque. Voilà, c'est pas la même, mais c'est pas la même histoire.
C'est un univers très minéral, justement, et très végétal.
C'est ça. En fait, il y a ce
représenté
côté,
dans ce
livre-là. Parce qu'en fait, là, ouais. Le livre que je fais sur les mousses, cette espèce d'humidité. Voilà, c'est l'humidité dans la nature qu'il y a ici en Mayenne. Hein,
C'est vrai.
Et qui m'a plu, qui m'a inspiré, parce que c'est aussi ce que moi je connais.
Comment transcrire l'humidité en image, quoi.
Je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire.
Effectivement,
avec peut-être les couleurs qui se diffusent, en fait, ce qui ne sont pas détourées. Toujours cette idée de tâche, en fait. Hein. C'est quelque chose que je fais toujours. Je jongle entre.
Une tâche bleue qui figure une source.
Oui.
Qui vient comme ça,
c'est la source.
Éclairer la page.
C'est ça. Exact. C'est très bien dit.
Merci.
Ouais, je jongle entre les tâches, des choses très, très fluides et lâchées, et des choses très maîtrisées avec le dessin par-dessus. Quoi.
C'est l'occasion aussi de faire un petit clin d'œil en parlant de ce très beau livre et de la belle expo aussi qu'il y a autour à Daniel Brie, un éditeur avec lequel vous avez travaillé, avec lequel vous avez fait deux très beaux livres. Alors malheureusement, un a épuisé. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Parce qu'ils sont, ils sont superbes aussi. Alors c'est vraiment un travail d'édition, c'est-à-dire que ce n'est pas des livres d'artistes dans le sens où c'est des exemplaires uniques, c'est vraiment...
C'est des multiples, on appelle ça des multiples.
On retrouve la Louve là, que vous êtes
qu'on
en train
tout
d'ouvrir.
À l'heure. Donc ça, c'est une vraie co-création avec Daniel, où ces images se fondent avec les miennes.
Superbe image aussi d'une femme qui est en train de tricoter un arbre.
Ouais, c'est ça. Tricote des arbres ou des protections pour les arbres. Et en fait, Daniel m'avait proposé de faire des livres d'artistes. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer les multiples sans trouver de personne. Et là, en Mayenne, écoutez, j'ai cette chance aussi d'avoir rencontré Daniel.
C'est autre très beau livre qui s'appelle
Gardienne des pierres.
Gardienne des pierres.
Voilà, qu'on a fait en lien avec le musée d'histoire naturelle.
Celui-là, il en reste quelques exemplaires.
Quelques-uns, oui, c'est vrai. Il était prévu d'en faire 30, mais on n'en a imprimé que 20. Et en fait, Daniel devait aussi s'occuper de l'impression et de la maquette des contes à Margot. Il devait y avoir 200 et quelques exemplaires uniquement pour les bibliothèques. Ce n'était pas prévu pour la vente. Et voilà. Il nous a quittés subitement au mois de mai. Donc, il n'a pas pu finaliser le projet. Mais il a quand même scanné toutes les images que j'avais faites. Et ça, il a fait un travail assez remarquable. L'imprimeur, d'ailleurs, de Cran nous l'a dit. Parce que...
Vous êtes contente parce que souvent, l'impression, parfois, peut être décevante.
Je suis super contente. Ouais. Et puis, ils ont été super gentils. On a pu rester avec Valérie toute la journée. C'était sur une journée, au fur et à mesure qu'ils imprimaient les pages.
Ça aurait pu être une piste qu'on n'a pas creusée dans cette interview, mais c'est aussi, vous aimez bien travailler à quatre mains.
Oui,
vous êtes pas j'aime
beaucoup
une
travailler
solitaire.
Avec les autres. Non, c'est vrai.
Il y a aussi votre compagnon, on n'a pas parlé quand même.
C'est vrai, alors qu'on crée beaucoup ensemble. Et
Nicolas Marot. Avec qui vous co-créez aussi beaucoup de choses. Les livres d'artistes que vous créez souvent sont co-créés avec lui.
Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi quand même ce qui marque ma spécificité, en fait, hein, dans mes livres d'artistes. Et c'est ce qui plaît. Aussi cette originalité de livre où on met du tournage sur bois et du textile, du papier. C'est une caractéristique de mon travail, oui, en effet. Et après, j'ai pu aussi collaborer avec d'autres artistes, comme avec Anne-Core.
Oui, et notre artiste qu'on a eu à ce micro aussi,
Constance,
qui en a le plaisir de faire une émission.
Oui, et Constance Villeroy de Rennes, là, qui travaille le métal. Enfin bon, il y en a plusieurs. Voilà, j'aime autant travailler avec des écrivains que des artisans et d'autres artistes aussi. Et là, j'étais ravie de travailler avec Pierre sur ce projet qui m'a permis de découvrir voilà, la Mayenne autrement que, qu'en faisant des balades et en admirant le paysage.
Alors ce livre, il est édité par la Bibliothèque départementale de la Mayenne, qui porte ce projet, comme vous l'avez dit. C'est un livre qui est toujours disponible, hein, si vous avez envie de le découvrir, dans toutes les bonnes librairies. Et puis aussi de le découvrir en expo, puisque comme on le disait, ça a donné lieu aussi à une expo qui est démarrée depuis octobre et qui se balade encore tout le mois de janvier en Mayenne, dans les médiathèques de Cran, de Saint-Denis-d'Anjou, de Louvernay. Et puis vous animerez aussi des ateliers autour de tout ça, Viviane, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, vous continuez aussi à transmettre, notamment autour du livre d'objets, du livre objet. Donc toutes les infos relatives à ces ateliers, à ces expos, elles sont à retrouver sur votre site internet, le site de Viviane Michel. Et on vous recommande d'ailleurs chaudement la visite, parce qu'il y a plein de choses sur ce site aussi qu'on peut découvrir.
Oui, puis aussi l'exposition, d'aller la voir en fait, parce que c'est vrai, des fois les gens ont acheté le livre, mais ils ne vont pas forcément voir l'exposition, ils pourront voir les originaux et trois objets en fait qu'on a fait avec Nicolas, justement un livre déroulant, un kamishibai. Enfin, des choses qui sont visibles que pendant ce temps d'exposition.
Ok. Merci.
Merci Viviane, à vous. Merci beaucoup.
pour votre accueil, pour ce moment passé ensemble. Un grand merci aussi à Joël, à l'autre radio, pour ses précieux conseils et puis pour le montage de cette émission. Et c'est une émission que vous pourrez retrouver, ainsi que toutes les précédentes, en réécoute sur notre site, en replay, sur transistor.org. Rendez-vous en février pour de nouvelles aventures. D'ici là, faites de beaux rêves.
Je te resserre de l'eau, peut-être, parce qu'on parle, on a soif, c'est vrai. Donc là, maintenant, c'est Joël qui va faire le travail.
Joël qui va faire le travail du montage. Ça, je suis bien content d'avoir quelqu'un qui le fait. Parce que, je pense que j'aimerais bien faire ça, mais... Quand c'est quelqu'un qui le fait, qui maîtrise, c'est un gain de temps. Puis bah il fait vraiment ça super bien. Donc, je suis un peu privilégié, je pense qu'il fait pas ça avec tout le monde. Mais je sais pas pourquoi, avec moi, il m'a jamais dit, bon, bah, j'ai la chance d'avoir le droit de
faire mon montage.